Je vais brièvement introduire le débat et puis ensuite je donnerai la parole successivement aux différents intervenants qui sont donc, que je vais d'abord présenter. Donc à ma droite, Aurélie Filippetti, députée Parti Socialiste. À ma gauche, Marion Navarro, étudiante à Aix-Marseille, c'est ça. Ensuite, Dominique Bruno, Bureau, pardon, justement, j'étais sûr que j'allais... Voilà. Dominique Bureau, qui est du Conseil de développement durable. Et enfin, ici, qui a été malencontreusement oublié sur la liste des intervenants, Philippe Bruno, qui est président du Cercle des fiscalistes et directeur général de la Banque Mirabeau à Paris. Donc, un panel assez varié pour nous parler de la fiscalité et de la réforme fiscale. Alors, je voudrais, en quelques mots, introduire, au fond, la thématique de cette séance, et ensuite, je donnerai successivement la parole aux quatre intervenants, et puis j'interviendrai peut-être à la fin sur le thème de la fiscalité locale, qui n'est pas très bien représenté ici. Donc, l'idée de cette session, comme l'indique le titre, c'est une interrogation sur, au fond, l'opportunité que pourrait représenter la crise pour réfléchir à une réforme fiscale, disons un peu ambitieuse. Et l'idée sous-jacente, c'est finalement la suivante. C'est que nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation des finances publiques qui, à la fois pour des raisons conjoncturelles, mais aussi sans doute pour un certain nombre de raisons structurelles, est assez fortement déséquilibré. On a aujourd'hui un déficit budgétaire qui est de l'ordre de 130 milliards en 2009 et à peu près le même ordre de grandeur en 2010. Et on a un certain nombre de dépenses publiques dont on sait pertinemment qu'elles continuent de progresser, qu'elles vont continuer de progresser et que même si on veut imaginer qu'un certain nombre d'efforts puissent être faits pour contrôler telle ou telle progression de tel ou tel poste de la dépense publique, on sait par ailleurs qu'un certain nombre d'autres, inéluctablement, vont devoir continuer à augmenter. Donc la question, me semble-t-il, à la base, au départ de toute cette réflexion, c'est celle des recettes fiscales et de la structure de la fiscalité, c'est-à-dire comment va-t-on mettre en place un système fiscal qui soit à la fois efficace, et donc on va discuter un certain nombre des dimensions dans lesquelles on peut évoquer cette question de l'efficacité, et notamment, bien entendu, la fiscalité écologique, puisque c'est un des thèmes importants du moment. Et puis aussi, plus généralement, la question de l'équité, c'est-à-dire comment faire partager le fardeau de cette fiscalité de la manière la plus juste possible. Donc l'idée, au fond, c'est de réfléchir à un système fiscal qui soit plus performant, je dirais, que le système actuel, étant entendu qu'au fil des années, depuis déjà un certain temps, on a modifié tel ou tel aspect, on a ravaudé telle ou telle chose qui allait mal, on a introduit de nouveaux dispositifs, on a allégé l'impôt sur le revenu, on a allégé l'impôt sur les successions, on a allégé récemment, avec la réforme de la taxe professionnelle, l'impôt sur les entreprises. Et donc la question, au fond, c'est qui va payer des impôts? Comment va-t-on mettre en place un système qui rapporte suffisamment pour financer les dépenses publiques qu'on a besoin de financer? Et comment ce système peut-il être conçu de manière à ce qu'il soit, comme je le disais, efficace et juste? Donc je vais donner la parole, si vous le voulez bien, d'abord, alors on va commencer par la fiscalité écologique, et comme ça, ça va nous permettre de passer des choses les plus... débattu aux choses, disons, un petit peu plus larges. Et je vais commencer, donc, si vous le voulez bien, par Dominique Bureau.
Qui me trouve
S'il problème. Trouve son PowerPoint, parce que lui en a un, tout le monde n'en aura pas. Donc, je vais demander à chacun des intervenants de bien vouloir, s'il vous plaît, vous en tenir à peu près 10 minutes chacun, de façon à ce qu'on puisse aussi débattre avec la salle et prendre des questions dans la salle. Merci. Donc,
j'arrive pas à le trouver.
Là, du coup, c'est la technique. Il trouve pas son PowerPoint. Donc, il vaut mieux ne pas en avoir. On a moins de problèmes.
Attendez, on va recommencer. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas de faire deux choses à la fois. En plus...
Donc, pendant qu'il cherche son PowerPoint, donc je dirais qu'on va parler d'abord de fiscalité écologique. Ensuite, on va élargir le débat de la fiscalité écologique aux autres formes de fiscalité et à la question de la réforme fiscale. Puis, on va passer à la fiscalité du patrimoine. Et enfin, on passera avec Marion Navarro à un certain nombre de considérations. Voilà. Qui est de la réforme fiscale aussi, bien sûr. Hein, mais c'est un aspect de la réforme fiscale. Voilà. Donc, voilà. Je laisse la parole à... Dominique.
Bonjour, excusez-moi pour le contretemps. Je crois effectivement, en introduction, tu as fait le lien sur une vision d'ensemble de la fiscalité. Je ne crois pas outrageusement faire parler Michel Rocard, mais l'intérêt qu'il a eu à faire le rapport sur la taxe carbone était très clairement lié à la vision qu'il avait de la fiscalité et sans doute avec en perspective la réforme fiscale suédoise notamment. C'est-à-dire que... Il n'a pas manqué, puisque j'étais son rapporteur, il n'a pas manqué de me rappeler qu'il avait été l'inventeur de la CSG et d'une certaine manière, son intérêt pour la taxe carbone était de boucler ou de compléter une évolution de notre système fiscal dans son ensemble. Alors, ceci étant, je pense que quand on regarde la taxe carbone ou la fiscalité environnementale plus généralement, il faut quand même faire attention à bien comprendre ce qu'est la fiscalité environnementale, c'est-à-dire d'abord un instrument... des politiques environnementales et donc la question de comment la réforme fiscale verte s'inscrit dans la réforme fiscale globale nécessite de bien regarder ce qu'est la fiscalité environnementale, ce qu'est son objet et au fond une distinction à opérer entre ce qu'on appelle la fiscalité contributive, c'est-à-dire la fiscalité qui est faite pour financer des dépenses et une fiscalité qui n'a pas de vocation à financer des dépenses, qui n'a pas de vocation à ramasser de l'argent, mais qui a comme vocation d'inciter à modifier les comportements, c'est-à-dire d'être un signal prix. Donc je vais rappeler quelques éléments de contexte, donc je vais me centrer sur la taxe carbone, qui me semble l'étude de cas plus intéressante, et puis je conclurai sur la question qui est posée à notre table ronde, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réformer pendant la crise, puisque c'est bien ça qui est en cause, puisque l'introduction de cet nouvel instrument se fait en pleine crise économique ou en pleine sortie de crise économique. Donc je vais rappeler quelques éléments de contexte qui feront peut-être gagner du temps aussi à Aurélie après, du moins j'espère, et ensuite de revenir sur les débats qu'il y a eu suite au débat sur la taxe carbone. Donc les éléments de contexte, hein, très rapidement, c'est d'abord, ça c'est l'aspect environnemental, à savoir qu'on est sur des trajectoires non soutenables en termes d'émissions de CO2. Ce que vous avez sur la ligne bleue, c'est les émissions tendancielles, hein, ce qu'on appelle business as usual. Et tous les scénarios de toutes les couleurs orangées sont les scénarios de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce schéma qui est issu du rapport Stern vous montre l'ampleur de la transition énergétique qu'il faut mener pour obtenir quelque chose qu'on peut caractériser de soutenable. Et puis le deuxième transparent, hein, pour mémoire, mais on y reviendra beaucoup demain, c'est les scénarios du GIEC. Les scénarios en pointillés sont les scénarios qui font cette inflexion. La réalité, c'est que pour l'instant, nous sommes plutôt sur les trajectoires dites tendancielles, business as usual, que sur les trajectoires de stabilisation des gaz à effet de serre. Donc un enjeu important. Et puis un dernier élément de contexte qui est important sur la taxe carbone, c'est que l'Europe a adopté un paquet climat-énergie à fin 2008 non seulement consolide le marché de permis CO2 pour les entreprises intensives en énergie, mais aussi qui fixe des objectifs par pays pour l'ensemble des activités. Et le débat sur la taxe carbone s'inscrivait dans un débat sur comment faire moins 14%, puisque c'est l'objectif qui est fixé pour la France de réduction de nos gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Alors, un élément, si maintenant on en est sur quelques mots sur l'instrument éco-fiscal en général, la vision des économistes insiste beaucoup sur le fait que l'instrument fiscal permet, à objectif environnemental donné, de faire qu'il sera obtenu au moindre coût. Alors, c'est important pour l'acceptabilité, c'est important évidemment en termes économiques, à savoir que si on peut faire... quelque chose pour 1 euro, ce serait idiot de le faire pour 2 euros et d'en diminuer le pouvoir d'achat et donc de préserver au mieux le pouvoir d'achat. C'est aussi important pour l'ambition des politiques climatiques parce que selon que la politique coûtera 100 ou 200, il est clair que l'ambition qu'on pourra se fixer, faire accepter, ne sera pas la même. Alors, pourquoi donc le raisonnement, il est dans ce... Donc, alors, le raisonnement, il est en deux temps. D'une part, que quand vous regardez
les possibilités. Ce que vous avez ici, c'est les gisements d'abattement hein, classés par coût croissant. Donc on voit qu'on en a... Alors c'est une courbe qui a été faite par McKinsey, mais l'idée générale, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas très coûteuses, d'éteindre la lumière, de changer les ampoules, de mieux gérer un certain nombre de comportements d'émissions d'énergie, mieux gérer ses déchets, etc. Et puis il y a des choses qui deviennent très très chères, mettre de la capture stockage du carbone sur des centrales thermiques qui n'ont pas été créées pour ça, ça devient très très cher. Et donc, et ça, on a l'expérience à savoir que si on, enfin, et donc selon qu'on prend les gisements d'abattement par ordre de mérite ou qu'on les prend au hasard, bah, on multiplie le coût de la politique par 2, 4, 10 et on a une bonne expérience empirique du fait qu'on peut faire le même objectif environnemental selon la manière dont on s'y prend pour des montants qui peuvent être sensiblement différents. Donc la deuxième idée sur la fiscalité environnementale, c'est que ça va permettre effectivement de choisir les gisements d'abattement par ordre de mérite puisque, au fond, si c'est moins cher que la taxe, bah vous le faites. Et si c'est plus cher que la taxe, vous préférez payer la taxe. Donc vous allez épuiser tous les gisements d'abattement jusqu'à ce que le coût de la tonne de carbone évité soit le coût limite qui est celui de la taxe. Et donc un petit calcul peut vous montrer que par rapport à une idée de réglementation uniforme, bah on va gagner de l'argent grâce si on bascule sur l'instrument fiscal. Donc ça, c'est l'argument standard des économistes qui est au cœur de l'instauration d'éco-fiscalité. Alors, autres éléments, je passe vite, c'est que si on veut avoir une politique efficace, et c'était un peu dans mon dessin précédent, il faut mobiliser tous les gisements par ordre de mérite. Et donc, il faut agir sur les process existants, éventuellement en faisant qui, par exemple, je ne sais pas, substituer la filière électrique à la filière fonte dans le cas de la sidérurgie, on peut imaginer plein de choses, mais il faut aussi par exemple changer les matériaux, passer plus au bois matériaux, etc. Et donc le système de prix, ça permet d'agir sur tous les leviers, alors que souvent des politiques ciblées n'agissent que sur un certain levier, avec en plus une difficulté que souvent quand on agit sur un seul levier, on a des effets rebonds, c'est-à-dire qu'on a des voitures qui sont plus efficaces, mais comme elles sont plus efficaces, on les utilise deux fois plus, et donc à la fin, donc si on veut réellement à faire des économies, il faut à la fois avoir des véhicules plus efficaces, mais aussi faire que les gens les utilisent parcimonieusement, en étant conscients du coût des ressources et de la rareté des ressources qu'ils utilisent. Dernier point, c'est très important pour le changement climatique, c'est qu'il faut une vision de long terme et donc il faut donner un signal prix à long terme pour orienter les choix de recherche-développement et d'investissement. Donc ça, c'est le cadre général dans lequel les économistes, je crois, abordent les problèmes d'éco-fiscalité avec toute une expérience à la fois des sujets théoriques, c'est peut-être intéressant pour vous, c'est que il y a les sujets théoriques, c'est est-ce qu'il faut prendre des taxes, est-ce qu'il faut prendre des permis, etc. Il y a la pratique. La pratique, c'est que parfois les débats théoriques sont sur un élément un peu ponctuel. Le vrai sujet, c'est pas quel est le meilleur instrument en théorie, c'est quel est en pratique l'instrument qu'on arrivera à mettre en œuvre dans les conditions qui en feront le plus proche de la théorie. Et à ce moment-là, le sujet est simple. Pour la fiscalité, le sujet, c'est comment éviter les dérogations. Pour les marchés de permis, le sujet, c'est comment éviter les distributions gratuites de permis sans limite. Donc là, on trouve la question comment on arrive au fond à résoudre les problèmes d'acceptabilité. Donc j'en viens au contexte de la taxe carbone très rapidement. Je ne sais pas combien il me reste de temps.
Trois minutes.
Donc pour faire vite, comme j'ai dit en introduction, il y avait 2/3 des émissions de gaz de CO2 en France qui échappaient jusqu'à présent à une régulation. Puisque la partie quota de CO2, c'est à peu près 1/3 des émissions. En France, les combustibles n'étaient pas taxés, les carburants sont taxés, mais l'analyse de la fiscalité sur les carburants, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre en compte d'autres éléments, la fabrication des routes, les autres pollutions liées à l'utilisation des carburants. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les combustibles, il n'y avait aucune fiscalité crédible et donc on n'informait pas de la rareté du fuel, du gaz, etc. et du fait qu'il va falloir s'en passer. Les débats, fondamentalement, sont concentrés sur deux sujets. Le niveau de prix, avec le débat 17 euros, 37, 32 euros la tonne. Le transparent dit autre chose. C'était la recommandation du rapport Rocard. Donc le rapport Rocard disait 32 euros en s'inspirant du rapport Kinney. Il insistait sur le fait qu'il ne fallait pas faire de dérogation et il insistait sur l'idée que l'utilisation de l'argent dégagé par cette fiscalité pourrait servir à baisser d'autres impôts et qu'il fallait privilégier ceux qui pénalisent l'activité économique. En pratique, qu'est-ce qui a été fait ? Donc, on a choisi 17 euros avec un argument un peu différent d'unicité des prix. Et finalement, la contrainte d'acceptabilité a plutôt primé sur la contrainte, sur l'idée d'utiliser cet argent pour faire une réforme fiscale dans son ensemble. Alors, quelles sont les choses derrière ça ? Donc, les débats qu'il y a derrière ça sont des débats intéressants. Enfin, voir ce que va me dire Aurélie, je pense qu'il va réintervenir là-dessus après, ce qui pourra être, on va voir justement ce qu'on peut dire là-dessus. Le débat sur le prix, bon, le débat sur le prix, fondamentalement, c'est un débat sur quelle est d'abord la rareté, quel est l'enjeu climatique, hein, mais ça, je crois que les travaux du GIEC fournissent des trajectoires, et puis ensuite, c'est quel est le profil qu'on veut donner, quel sacrifice on demande aux générations présentes, et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, justement, pour les générations futures. Donc le rapport Kinet que j'ai cité avait fait beaucoup d'exercices qui cherchaient au fond à avoir les bonnes trajectoires de prix par rapport à ces trajectoires du GIEC. L'argument qui a été pris est un peu différent finalement, de dire il faut que le prix soit le même dans tous les secteurs. Et ça, du point de vue économique, c'est quand même un enjeu important, parce que si le prix n'est pas le même, d'un côté, on va dépenser 30 euros pour faire des économies, de l'autre, 14 euros. Et donc, il y a de bons arguments, et ça, c'est un débat qui traverse les économistes, auxquels ils ne savent pas bien répondre. Quand on est dans une situation de second rang, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au fond, est-ce qu'il faut faire comme le premier rang et donc prix unique ? Ou est-ce qu'il faut se dire que comme on était dans le secteur domestique, on pouvait là mettre un prix plus élevé ? C'est un sujet classique. Dernier sujet, c'est sur l'utilisation de la recette. Donc le débat, ça a été au fond, et qu'est-ce qui a primé ? Ça a été de se dire, c'est un instrument nouveau dans la fiscalité française, et donc il faut bien faire comprendre au public que l'objectif, c'est pas de ramasser de l'argent, c'est de mettre des incitations, et donc que l'argent peut être rendu. Et donc finalement, la contrainte qui a primé, c'est qu'il fallait d'abord rendre l'argent. Alors évidemment, il ne faut pas le rendre l'argent. À chaque fois que les gens payent un euro, on leur rend un euro, sinon on supprime l'incitation. Mais leur rendre forfaitairement et équitablement, en tenant compte de la composition des familles, etc. Mais l'idée a été de privilégier la lisibilité du fait que l'objet de la taxe carbone n'est pas de ramasser de l'argent, c'est de modifier les comportements en matière de consommation d'énergie et de CO2. Et donc, clairement, par rapport au discours des économistes, mais ça on pourra peut-être y revenir, l'idée du second dividende, c'est-à-dire aussi de faire de la réforme fiscale dans son ensemble, a été un peu reportée, elle n'a pas été abandonnée, puisqu'il y a une partie qui va servir et puis elle est maintenue, mais je dirais un peu renvoyé à demain. Donc c'est ça les deux gros débats qu'il y a eu. Évidemment, ils ont été perturbés par le fait que les deux débats interagissaient. Et donc, tant qu'on n'avait pas été très clair sur la manière d'utiliser la recette, le débat sur le niveau était compliqué, alors que clairement, ces deux débats devraient être séparés. Donc j'en viens pour conclure. Est-ce qu'on peut réformer dans la crise et qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de tout ça ? Bon. On entend des gens dire il faut reporter parce que c'est la crise, et puis il y en a d'autres qui disent que c'est le moment parce que c'est la crise. Ça, c'est pas facile à trancher par rapport à la fiscalité carbone. Par contre, il faut se préparer à la sortie de crise, et comme tu l'as dit en introduction, tu as signalé, je crois, qu'on allait avoir une crise des finances publiques en sortie de crise, ou des débats aigus sur les finances publiques en sortie de crise, et on va avoir une crise énergétique, hein, c'est dit dans le rapport Stiglitz, hein, c'est bien documenté, à savoir que les contraintes de rareté des ressources énergétiques et climatiques vont revenir très très vite s'il y a de la croissance, et d'ailleurs on le voit dans les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, on voit que les pays émergents continuent à beaucoup utiliser d'énergie, notamment, et plus, enfin, donc si c'est pas parce qu'on est en crise qu'il faut pas se préparer à la sortie de crise, donc je crois que ça c'est assez l'évidence. Ensuite, je pense que la question est plus générale, c'est comment, donc je crois que si on traite bien les instruments et si on arrive à bien régler séparer le problème du niveau des problèmes d'équité et de redistribution liés à la fiscalité, on peut le faire en crise et dès lors qu'on le fait proprement. Par contre, il y a besoin de lisibilité. Je veux rappeler quand même que la manière qui a été prise, qui est assez générale dans les domaines des politiques environnementales où l'idée de débat public est plus ancrée, qui n'est pas présente toujours chez les fiscalistes qui n'aiment pas mettre sur la table leur débat. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait eu les conférences d'experts, puis la table ronde Rocard, il y a eu un processus qui a essayé de fabriquer quand même au moins le consensus des experts pour savoir où on mettait les pieds, et je pense que ça c'est important pour la réforme fiscale en général. Voilà.
Merci. Je passe maintenant la parole à Aurélie Filippetti.
Merci beaucoup. Donc, merci Dominique d'avoir lancé le débat sur la fiscalité écologique. Donc moi, je voudrais à la fois partir de l'exemple de la fiscalité écologique et des débats qui ont eu lieu sur la taxe carbone et puis élargir le sujet justement à une réforme fiscale globale. Pourquoi ? Parce que notre système fiscal français actuel est à la fois socialement injuste et écologiquement inefficace. Et donc il y a deux défis à relever quand on parle de réforme du système fiscal, c'est de le rendre plus efficace du point de vue de l'écologie et aussi plus juste socialement. Et je pense que ce qui a perturbé dans le débat public toute la question de la taxe carbone, de la fiscalité écologique, de l'instauration d'une fiscalité écologique, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens n'ont plus confiance dans le système fiscal français. Et donc ils ont l'impression, de toute manière, qu'on va simplement leur créer une nouvelle taxe, que cette taxe ne servira pas à diminuer les externalités négatives, les pollutions, la production de carbone, etc., qu'elle servira simplement à renflouer les caisses de l'État qui sont effectivement dans un état assez calamiteux. Donc, étant donné que notre système fiscal est devenu illisible, extrêmement compliqué, extrêmement mité, extrêmement stratifié, toute réforme, y compris réforme fiscalement, écologiquement juste, écologiquement vertueuse et avec des finalités qu'on ne peut que partager, notamment la taxe carbone, toute réforme se heurte à ce mur de la défiance. Alors, sur la fiscalité écologique, effectivement, il est indispensable d'instaurer aujourd'hui une fiscalité écologique en France. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, enfin sur un modèle qui reposait sur le modèle d'une énergie bon marché, d'une énergie d'ailleurs quasiment gratuite, ou en tout cas on ne prenait quasiment pas en considération le prix de l'énergie dans le prix final des produits consommés. Donc aujourd'hui, avec les conclusions du rapport Stern, avec l'urgence climatique, l'urgence écologique, les objectifs de réduction des productions de gaz à effet de serre, d'augmentation des énergies renouvelables, de diminution de notre empreinte écologique, de notre empreinte énergétique par l'amélioration de l'efficacité énergétique, on est effectivement au pied du mur et donc on doit modifier nos comportements. Et le but d'une fiscalité écologique, c'est bien d'induire une modification des comportements. Donc, en rendant plus cher le coût des produits verts, des produits non verts, on va inciter les citoyens consommateurs à se tourner davantage vers des produits verts. Et là, on nous dit, oui, mais le problème, c'est que ces produits verts sont plus chers et donc vous n'allez pas donner accès aux classes les plus défavorisées à ces produits écologiquement responsables. Et c'est là qu'il y a eu ce fameux débat sur la redistribution de la taxe carbone. Et on est rentré donc dans un débat assez incompréhensible pour l'opinion publique, à savoir qu'on allait créer une taxe carbone pour la rembourser intégralement à nos concitoyens. Et donc les gens se disaient tout à fait logiquement, mais pourquoi créer une taxe si c'est pour qu'elle soit remboursée ? Alors, le but d'une véritable contribution climat-énergie universelle, ce que le Parti socialiste défendait, ainsi d'ailleurs que les Verts, enfin qui était d'ailleurs les conclusions du rapport Rocard, c'était qu'il fallait une contribution climat-énergie universelle. Le but, c'était que d'abord elle repose sur toutes les sources d'énergie et pas uniquement sur le carbone. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est bien la diminution de notre empreinte énergétique globale et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le but, c'était qu'elle soit suffisamment douloureuse pour être réellement incitative. Et donc, le niveau qui avait été fixé à 32 euros, qui est effectivement issu du rapport Kiné, c'était un niveau qui permettait d'avoir un signal prix assez fort au départ, mais qui surtout devait être un niveau qui évoluait. Et plutôt que de se focaliser d'ailleurs sur le niveau de départ, nous on souhaitait qu'on inscrive dans le projet de loi de finances, comme cela aurait été possible, qu'on inscrive une évolution, donc une lisibilité sur plusieurs années de cette contribution climat-énergie, puisque l'objectif c'est bien d'arriver en 2030 à 100 euros la tonne de CO2. Donc il fallait qu'il y ait cette lisibilité qui soit inscrite. C'est ce qu'ont fait les Suédois d'ailleurs, qui sont partis à 27 euros en 91, je crois, pour être aujourd'hui à 107 euros, donc avec une progressivité forte qui était inscrite dès le début. Et pourquoi cette progressivité était importante? C'était pour permettre aux acteurs d'anticiper, aussi bien aux ménages qu'aux entreprises, pour qu'elles puissent adapter leur processus de production et ainsi progressivement se réorienter vers les technologies vertes, donc vers davantage de vertus enfin, écologiques. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas avec la taxe carbone telle qu'elle a été présentée par le gouvernement dans le cadre du PLF, puisque non seulement on est resté sur un niveau extrêmement bas de 17 euros, mais en plus avec aucune inscription dans la loi d'une évolution à venir. Donc on reporte toujours cela sur les budgets futurs. Sur la compensation elle-même, il y avait un problème. Moi, je n'étais pas favorable à ce qu'on parle de compensation, pour les raisons que je vous ai expliquées. Je pense qu'il faut davantage parler de prime pour l'environnement. Et donc, cette compensation qui a été fixée, qui est fixée sur une base forfaitaire aujourd'hui, c'est-à-dire que pour un ménage, pour un individu, c'est 46 euros, pour un ménage, 92 euros. Et la seule variation qu'il y a, c'est en fonction de votre lieu de résidence. Donc, en gros, on a différencié les zones rurales et les zones urbaines en fonction de l'accessibilité au réseau de transport en commun collectif. Ce qui est d'ailleurs extrêmement compliqué à évaluer et extrêmement injuste. Donc c'est forfaitaire, donc forcément c'est injuste socialement. Et une réforme écologique juste doit avoir aussi un objectif de justice sociale. Donc nous sommes favorables à ce que cette contribution climat-énergie, elle soit compensée par une prime pour l'environnement à destination des ménages les plus modestes et des classes moyennes, pour leur permettre justement de s'adapter et d'avoir accès à des technologies plus vertes, mais que en revanche pour les catégories les plus aisées, il n'y a aucune raison de leur donner en plus justement une ristourne, alors qu'ils ont déjà les moyens finalement d'avoir accès à ces technologies les plus vertueuses. D'autant plus que en ce qui concerne le signal prix, ce qu'on a eu du mal à faire passer comme message, c'est que l'objectif d'une fiscalité écologique, c'est bien sûr de renchérir le prix des produits non verts, des produits polluants. Mais c'est donc d'inciter les entreprises à investir pour développer des marchés de masse dans les produits verts. Et pour que les entreprises soient incitées à investir, il faut que justement elles aient comme perspective d'avoir un marché assez large. Et évidemment, si quand on regarde par exemple le prix, je sais pas, des écrans plasma qui étaient très chers il y a 3 ans ou 4 ans, leur prix a diminué. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'équipent, donc voilà, le prix baisse. Il faut que ce soit la même chose pour les technologies vertes, vertueuses. Donc il fallait ce signal prix assez fort pour qu'il y ait vraiment un effet d'entraînement qui permette le développement d'un marché de masse. Et puis aussi, le coût de l'équipement d'une économie de réseau, comme peut l'être par exemple le développement des voitures électriques avec des circuits de ravitaillement ou que sais-je encore, là aussi ça a un coût assez élevé, même très élevé, pour les entreprises. Et donc là encore, il faut qu'elles sachent qu'il y aura un marché derrière, donc qu'elles soient incitées à investir là-dedans parce qu'il y aura un marché derrière. Et tout ça amènerait bien entendu à une baisse à terme, sur quelques années, du prix de ces technologies vertes, donc au fait qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, et donc on revient sur un objectif finalement de justice sociale. Bon, c'est pas la solution qui a été retenue. Et là encore, ce débat sur la fiscalité écologique, il a été pollué par l'injustice profonde du système fiscal global français, qui est un système qui est devenu finalement assez régressif. On a un impôt sur le revenu qui s'amenuise comme peau de chagrin, qui est mité, de plus en plus mité par 450 niches fiscales, qui est profondément atteint par le bouclier fiscal, qui fait que finalement ce sont les revenus les plus élevés qui sont préservés de toutes de toute la contribution à la solidarité nationale. Et nous, nous sommes favorables à ce qu'on ait une refonte globale, totale, de notre système fiscal pour remettre la priorité sur ce qui est l'impôt le plus juste, parce qu'il est progressif, qui est l'impôt sur le revenu. Et donc qu'on puisse, en gros, fondre l'impôt sur le revenu et la CSG, y intégrer la prime pour l'emploi, le revenu de solidarité active et même la fiscalité locale, avec, en transformant la taxe d'habitation en une sorte d'impôt additionnel sur l'impôt sur le revenu, avec des taux qui seraient fixés localement, mais qu'en gros, on remette la priorité sur l'impôt sur le revenu en élargissant considérablement l'assiette, en modifiant bien sûr les taux pour que les revenus les ménages les plus modestes contribuent, mais évidemment contribuent beaucoup moins que les revenus les plus élevés, parce qu'aujourd'hui finalement on a d'un côté mité l'impôt sur le revenu, on y a porté atteinte de manière très grave, mais de l'autre côté on a un impôt proportionnel comme la CSG qui pèse bien sûr parce qu'il est proportionnel lourdement sur le budget des ménages modestes et des classes moyennes, qui représente un mois de salaire pour les classes, pour les catégories les plus modestes. On a des impôts indirects qui sont extrêmement injustes et qui là encore pèsent le plus lourdement sur les revenus les plus modestes et les classes moyennes. Et puis on a tout en haut de l'échelle. On a un système qui est devenu totalement régressif, puisque si on prend les 1000 contribuables les plus riches de notre pays, on considère que leur taux moyen d'imposition il est de 24,5%. Si on prend maintenant les 10 contribuables les plus aisés parmi ces 1000, on constate que leur taux moyen d'imposition il est inférieur à 20%. Donc tout en haut de l'échelle des revenus, on a finalement un impôt qui est devenu régressif. Et ça, c'est profondément injuste. Alors, il ne s'agit pas pour nous, ce qui est important de comprendre et ce qui est parfois difficile de faire comprendre, c'est qu'il n'est pas, c'est pas question pour la gauche ou pour le Parti Socialiste de dire il faut que les riches payent beaucoup parce qu'ils sont riches et que ce serait mal d'être riche. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a effectivement une situation des finances publiques totalement catastrophique, enfin avec un déficit qui est passé de 3,4% l'année dernière à 8%, qui est au niveau de dette 130 milliards, on sera passé de 65% du PIB en 2007 à 100% à la fin de la présidence Sarkozy. On a un niveau donc d'endettement national totalement ahurissant. L'État vit pendant les 6 premiers mois sur ses recettes fiscales et ensuite vit à crédit. Donc il faut faire des choix et il faut faire des priorités. Et ces priorités, pour nous, ça doit être justement rétablir une véritable équité fiscale, donc considérer que chacun doit contribuer à la solidarité nationale, à la préparation de l'avenir, au désendettement des générations futures, à hauteur de ce qu'il gagne, de ses revenus, mais aussi de son patrimoine, et que cette fiscalité devenue plus juste socialement permettra d'intégrer de manière beaucoup plus forte que ce qui est le cas actuellement une dimension écologique, donc en taxant davantage les produits qui polluent le plus, afin d'inciter à la consommation de produits plus vertueux écologiquement et d'inciter aussi les entreprises à s'orienter vers ce qu'on appelle la croissance verte, les technologies vertes, qui sont aussi les sources d'emploi de demain et les sources de développement économique de demain. Donc c'est pour ça que, de manière un peu ramassée, je souhaitais pouvoir dire que la fiscalité écologique, c'est une nécessité, c'est une urgence, et elle sera acceptée socialement à condition qu'elle s'inscrive dans une réforme fiscale globale dans le sens de la justice sociale.
Merci beaucoup. Je vais passer maintenant. Non, c'est nous, ça allait. Je vais passer maintenant la parole à Philippe Bruno sur la fiscalité du patrimoine, puisqu'on vient d'évoquer successivement d'abord la fiscalité écologique, puis on a commencé à évoquer la fiscalité des revenus et la fiscalité des hauts revenus. Donc, assez naturellement, on passe celle des patrimoines. Donc, Philippe.
Je vous remercie, Jacques. Oui, je présume que cela a été dit durant ces différentes journées de l'économie, mais la crise n'est évidemment pas finie, elle ne fait que commencer. Et si à ce jour, on ne sait ni quand ni comment nous sortirons de cette crise, ce qui est certain, c'est que nous savons que c'est une crise structurelle et non pas conjoncturelle, et que nous assistons tout simplement à un changement de régime économique qui était jusqu'ici fondé sur la dette. Alors tout cela, bien évidemment, il y a un débat qui aujourd'hui est entre les mains des économistes, qui est la question étant de savoir, de recréer les conditions d'une croissance que je qualifierais d'auto-entretenue. Mais très rapidement, ça commence déjà, le débat va se déplacer sur le terrain fiscal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura recréé les conditions de la croissance, va se poser la question de leur redistribution. Et puis d'autre part, il conviendra aussi de remédier, comme cela a été évoqué il y a un instant, à la situation extrêmement périlleuse de nos finances publiques, et surtout de se pencher sur la cause première de la crise, qui n'est évidemment pas les hedge funds, ni les paradis fiscaux, ni même les bonus des traders, mais plutôt le creusement des inégalités que nous connaissons dans la plupart des pays de l'OCDE, en France d'une moindre manière, mais que nous connaissons quand même depuis maintenant 30 ans. Alors si nous ajoutons à cela, ce qui a été effleuré il y a un instant, que notre système fiscal est à bout de souffle, qu'il a eu ses vertus à une époque, c'est vrai, à une époque où il s'inscrivait dans une conjoncture, dans un cycle, dans un mouvement qui aujourd'hui est devenu obsolète, alors oui, bien sûr, le moment est venu d'une réforme fiscale. Une réforme fiscale est nécessaire et la sortie de crise sera très certainement le bon moment pour la réaliser. Alors afin de préserver bien évidemment les entreprises qui ont vocation à investir et à produire, très certainement que les particuliers, les contribuables, seront mis à contribution dans tous les sens du terme, bien évidemment, au moment de cette réforme fiscale. En ce qui concerne la fiscalité patrimoniale, permettez-moi très rapidement de mettre en exergue quelques principes et d'explorer quelques pistes. Comme cela a été effleuré, je le disais il y a un instant, chacun s'accorde à penser qu'un système fiscal moderne repose sur un triptyque. Il doit être efficace, bien évidemment, on lui demande quand même de générer des recettes pour les caisses de l'État, mais il doit être aussi équitable, c'est-à-dire consolider le contrat social, et bien évidemment simple. Simple, ça veut dire lisible, compréhensible par tout le monde, pour in fine être légitime. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est l'illégitimité de la plupart des impôts qui frappent les contribuables. Je ne parlerai que ceux que je connais bien, c'est-à-dire ceux qui frappent le patrimoine, mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de légitimité. On parlait de défiance tout à l'heure, c'est un problème de légitimité de l'impôt, de certains impôts. Si on soumet Alors ces trois grands principes sont importants, hein. Ils datent de quelques siècles maintenant, ils ont été évoqués par Adam Smith en son temps, et si on soumet les trois impôts qui frappent le patrimoine à ces trois filtres, les trois impôts que sont l'impôt sur le revenu, l'ISF, les droits de mutation à titre gratuit, vous me permettrez de les appeler les droits de succession, c'est un tout petit peu plus simple pour moi, on constate à quel point nous avons un système fiscal qui dévalorise le travail, qui dévalorise aussi l'égalité des chances, nous y reviendrons sur les droits de succession, et donc le mérite. En un mot, une fiscalité qui marche sur la tête. Or, pour moi en tout cas, la fiscalité est certainement la meilleure grille de lecture, le meilleur baromètre pour comprendre comment un pays appréhende la notion de justice fiscale, et de justice sociale, pardon. Et bien au-delà des discours politiques, des professions de foi de droite comme de gauche, l'étude d'un système fiscal en dit beaucoup plus long sur la manière, je le répète, dont un pays appréhende la notion de justice sociale. Alors lorsque l'on regarde l'impôt sur le revenu, que constate-t-on ? L'impôt sur le revenu ressemble à un gruyère dans lequel les trous seraient plus importants que la matière consommable. Une assiette étroite, essentiellement focalisée d'ailleurs sur les revenus du travail et de l'immobilier. Le tout bourré, des taux encore relativement élevés et le tout bourré d'exonérations, ce que l'on appelle les niches fiscales, au nombre de, je ne sais plus très bien combien, tellement il y en a, 460, 470, on ne sait plus très bien, chaque année il y en a plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça coûte à peu près 60 milliards chaque année aux recettes de l'État. L'ISF, je crois que tout a été dit sur l'ISF, tout a été écrit, c'est une vache sacrée. Une espèce de totem devant lequel on se prosterne chaque année, une fois l'an, mal conçu, symbolique, inéquitable, parfois confiscatoire, moins maintenant, c'est vrai, très peu rentable. C'est une spécificité française qui aujourd'hui est entre les mains des politiques et non plus des fiscalistes. C'est-à-dire que l'on est, du même coup, le débat, si vous voulez, c'est déplacé du domaine du rationnel vers celui du passionnel. Donc on est véritablement dans autre chose. Pour moi, l'ISF, c'est une punition que la majorité des Français accepte d'infliger à 400 ou 500 000 d'entre eux et accepte surtout d'en payer le coût. Nous y reviendrons tout à l'heure si vous le souhaitez. Les droits de succession, peu rentables, surtout après la réforme de Nicolas Sarkozy, pas équitables du tout, aussi bien au sens civil du terme qu'au sens fiscal du terme. Donc voilà le panorama des trois impôts qui frappent, je dirais, un patrimoine. Le dénominateur commun des trois, je dirais que c'est leur complexité qui les rend de moins en moins légitimes aux yeux des contribuables. Notre fiscalité est en effet devenue une espèce de millefeuille fiscal, un patchwork, un puzzle. C'est une superposition de réformes sans aucune cohérence globale. Alors selon moi, une réforme de notre fiscalité devrait s'articuler en gros autour des idées suivantes que nous pourrons bien évidemment détailler si vous le souhaitez. Premièrement, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il faudrait bien évidemment procéder à un rééquilibrage entre la fiscalité du travail et celle du capital, première chose. Ensuite, il faut avoir des assiettes plus larges, certainement avec des taux plus modérés, et bien évidemment opérer la fusion de la CSG avec l'impôt sur le revenu qui ne veut plus rien dire. Que voit-on dans le projet de loi de finances, par exemple, de cette année, enfin pour l'année prochaine? Il n'y a pas de création d'impôts nouveaux, mais en revanche, on voit bien que l'assiette taxable de la CSG s'élargit de plus en plus, y compris à des revenus ou des plus-values qui étaient exonérés d'impôts. Donc ça touche les prélèvements sociaux au sens large du terme, touche absolument tous les revenus, et donc la CSG, je devrais dire les prélèvements sociaux, mais permettez-moi de dire la CSG, frappe aujourd'hui, est un impôt universel frappant quasiment tous les revenus. Donc ça ne veut plus rien dire que d'avoir encore cette icône qu'est l'impôt sur le revenu. Fusionnons les deux, faisons en sorte que la CSG soit déductible de l'IR. Je passerai la parole à Jacques, qui connaît bien mieux que moi le sujet, puisqu'il a co-écrit un rapport sur le sujet. Mais je crois que le moment est venu. Enfin, une suppression de toutes les niches fiscales. Je veux dire, le plafonnement des niches fiscales, c'est n'importe quoi. Il faut supprimer toute niche fiscale à intérêt social non avéré. En ce qui concerne l'ISF, il faut le supprimer. Supprimer l'ISF est bien évidemment son corollaire qu'est le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal a un intérêt. Je rappelle qu'on paye ses impôts en fonction de ses capacités contributives, certes, mais peut-être quelque chose qui a échappé à certains dans les principes généraux de notre Constitution, c'est qu'on doit aussi protéger la propriété privée. Et donc on ne peut pas, un impôt ne peut pas avoir de caractère confiscatoire, et certes, le bouclier fiscal peut, sous certains aspects, être choquant, lorsque l'on traite des très hauts, des 1000 ou des 10 plus hauts revenus, mais les impétrants au bouclier fiscal, ils ne sont pas 1000, ils sont 235 000. Il n'y a pas 235 000 personnes qui sont forcément très riches en France. Nous pourrons y revenir. Enfin, la réforme de la fiscalité sur les successions. Les droits de succession ont failli disparaître en France. Le candidat Sarkozy l'avait proposé. C'eût été, à mon sens, une gravissime erreur. Heureusement, ils ont été maintenus. Mais 95% des successions sont exonérées de droits en France. Et je trouve que c'est une faute. Dans un pays qui se dit libéral, dans un pays dans une société qui se veut à la fois dynamique et équitable, on se doit d'avoir des droits de succession dignes de ce nom, et les droits de succession doivent être certainement revus. Je pense pour ma part que la principale loi sociale des deux septennats de François Mitterrand, ça n'a pas été la création de l'IGF, mais ça a été le doublement des droits de succession dans la loi de finances pour 1984. Pour résumer, je milite pour ma part depuis des années pour une réforme fiscale d'envergure. Je le répète, la sortie de crise est certainement le bon timing pour procéder à cette réforme, mais à trois conditions à mon sens. Premièrement, il faut bien attendre la sortie de crise afin de ne pas tuer la croissance dans l'œuf. On ne peut pas se permettre d'une réforme fiscale en pleine crise, en plein milieu de la crise. Deuxièmement, bien identifier les causes de la crise afin de bien cibler les réformes. Je veux parler bien évidemment du creusement des inégalités et en particulier de la problématique de la disparition des classes moyennes dans les pays de l'OCDE. Et troisièmement, connaître avec exactitude, avec le plus d'exactitude possible, les modalités de sortie de crise, c'est-à-dire le taux de croissance que nous connaîtrons, mais surtout le taux d'inflation et évidemment le niveau des taux d'intérêt, parce que de ces deux facteurs, on ne pourra pas faire n'importe quoi en fonction de ces deux facteurs. Dans les circonstances actuelles, donc, je pense que toute erreur de diagnostic serait hautement préjudiciable et nous coûterait cher, et que les décisions qui vont être prises vont dessiner la France des 30 prochaines années. Une réforme fiscale, ce n'est pas un truc que l'on fait tous les 3 ans ou tous les 5 ans, ou quitte à recréer un millefeuille. Et donc, je crois qu'il est urgent de réfléchir à cette réforme, mais qu'il est encore trop tôt pour passer à l'action.
Merci beaucoup.